RMC, les grandes gueules.
Ouais, parce que ces Jeux Olympiques approchent. Ça démarre le 26 juillet, je vous le rappelle. Donc vous faites le calcul, hein, 26 avril, on approche fin avril, mai, juin, juillet. Et il faut que tout se mette en place à Paris. Quand j'ai tout se mettre en place au niveau des infrastructures, au niveau de la circulation, au niveau des hébergements, des logements, et surtout de l'image que va renvoyer la capitale.
On en parlait la semaine dernière, des maires en province avaient constaté l'arrivée de migrants, de SDF, de personnes en difficulté venues de Paris dans des cars, et qu'il faut installer à Besançon ou ailleurs, trouver des logements, etc. Là, dernièrement, on a fermé un hôtel social dans le 18e arrondissement, et donc les personnes sont à l'intérieur, ben, on les sort de Paris. Alors, certains disent que c'est parce qu'on est en train de faire le ménage pour les JO, hein, il faut place nette, en quelque sorte, à Paris. Ailleurs, c'est pour enlever les délinquants et les trafiquants de drogue, là, c'est pour enlever ceux qui font peut-être... qui correspondent pas à l'image qu'on veut donner de la capitale, une image Émilie Paris. Et puis quand on interroge les autorités, ils disent c'est pas du tout ça, ça a rien à voir avec les JO. C'est une meilleure répartition notamment d'immigrants. C'est une. D'ailleurs Emmanuel Macron l'avait annoncé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut pas tout concentrer sur la capitale et qu'il y a des villes où il y a des places d'hébergement qui sont vacantes et donc on peut accueillir ces gens et mieux répartir en quelque sorte les misères. Alors qui a raison, qui a tort, Elina qui travaille auprès de ces populations, qu'est-ce que tu constates?
Alors notre gouvernement, évidemment, ne nous le dira jamais, mais c'est un nettoyage social. Moi, je suis pas contre. Par exemple, quand un demandeur d'asile a eu sa demande d'asile, vivre à Orléans, à Marseille, enfin, ça change pas grand-chose pour lui. Tout est à construire. Mais le problème, quand ils font le nettoyage social de Paris, dernièrement, je suis allé au squat en Seine-Saint-Denis. Le problème, alors j'en veux pas aux médias, hein, parce que les médias, ils font pas du terrain comme moi, ils rencontrent pas les gens. Mais en fait, là où il y avait 400 personnes, dans les médias, on dit, il y a 400 personnes migrantes. Non, il y a de tout. Moi, j'ai vu des mamans avec des enfants, j'ai vu des gens qui travaillaient, qui étaient en CDI. Et là, mais il y a même pas, tu montes dans le bus, point barre.
Même ceux qui travaillent sur place.
Voilà. Et en fait, il n'y a pas que des personnes migrantes. Il y en a, attention, hein, je ne vous dis pas l'inverse.
En fait,
il y a moins que des migrants dans les squats.
Voilà. Et il peut même y avoir des personnes,
âgées.
Avec des enfants qui sont scolarisés dans l'école du
coin. Voilà. Il peut y avoir aussi des jeunes gamins de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Il y a de tout. Et ce qui m'embête vraiment beaucoup, c'est que vous vous rendez compte, il y a des personnes qui sont en pleine démarche administrative, c'est déjà compliqué les démarches administratives, tu me diras pas l'inverse, Zora.
C'est vrai.
Et qui se retrouvent dans une ville. Mais il y en a qui sont déjà revenus. Alors moi, j'ai parlé à des personnes qui sont vraiment des personnes migrantes. Ils m'ont dit, mais tu sais, Elina, moi, ça m'est égal d'aller vivre à Bordeaux, à Besançon ou à Saint-Nazaire. Mais à condition que j'ai un boulot et un logement. Parce que, oula, il ment encore le gouvernement, c'est que c'est des sas. Vous savez ce que c'est des sas? Enfin, Zora, toi, tu
sais
autant.
C'est un passage, oui.
C'est un passage. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'en fait.
Il n'y a pas de stabilité qui est construite.
Voilà, mais attends, il y a.
Il n'y a pas des places vides facilement dans ces villes-là.
Non, mais attends, il y a des villes aussi où se passent les JO, hein. Ça, faut pas l'oublier non plus, hein. Donc, mais c'est saturé de partout.
Et donc, toi, tu penses que c'est vraiment lié aux Jeux Olympiques?
Bien sûr. Et moi, ce que je regrette, et là, par contre, bon, Utopia 56, on peut dire tout ce qu'ils veulent. On peut dire plein de choses sur eux. Parce que moi, vous imaginez bien, vous savez très bien le travail que je fais. Moi, je suis censé être force de proposition, que ce soit au gouvernement Macron ou à la région Île-de-France. J'ai perdu le fil de... Ah oui, ça y est. C'est que moi, j'arrête pas de dire aux associations, Fondation Abbé Pierre, Aurore, La Croix-Rouge, je peux en oublier, hein, Secours Populaire, enfin, toutes les grosses associations qui sont gérées évidemment par l'État, voire même le SAMU Social pour lequel j'interviens. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous empêche tous de vous réunir et dire non, on ne le fera pas? Ah mais non, Elina, non, Elina, on est, comment dire, coincé à cause de subventions.
Voilà.
Eh ben, moi, je suis pas d'accord. Oui. Je suis pas d'accord.
Parce que ça veut dire que c'est ces assos qui organisent le départ des gens.
Ben, eux, ils disent oui. Alors, par contre, ils le disent tous. Alors, ils le disent pas à la télé. Ils comptent sur moi pour que je le dise. Ça, je peux vous le dire. Hein. Ils sont très contents que je le dise. Même il y a des gens au gouvernement.
Parce que t'as pas les mêmes intérêts qu'eux et t'as pas les mêmes enjeux qu'eux.
Ah ben ça, eh ben c'est pour ça que je veux être électron libre moi. Parce que si je vais aux grandes gueules et que je peux plus dire ce que je veux, ben ça sert à rien que j'aie ici. Et t'inquiète pas, là, il y en a qui m'écoutent. Il y a plein d'assos. Ils sont ravis parce que toutes les associations sont outrées par ce qui se passe.
Oui, mais...
En plus,
oui,
attends, il y a eu un taux d'expulsion là à la trêve hivernale qui est énorme. En 2024, il va encore empirer. Et ça, toutes les assos le
savent. Mais là, pour Aïlina, excuse-moi, mais là, tu pointes un dysfonctionnement énorme. C'est-à-dire qu'en France, on a délégué la question des sans-domicile fixe et la question des migrants à des associations.
Ils sont
et
tu es en train, trop
voilà,
assez politisés.
Voilà. Et tu es en train de nous dire que tu es en train de nous dire que pour des raisons financières et pour des raisons de dépendance vis-à-vis de l'État, quel qu'il soit, ces associations sont obligées de fermer les yeux sur leur mission principale qui est de lutter contre le sans-abrisme. Et donc, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que les gens qui donnent à ces associations, les gens qui comptent sur ces associations, les gens qui font semblant de s'indigner de ce qui se passe, eh ben, on est en train de se rendre compte que la chaîne associative humaniste et de droits de l'homme qui est censée protéger ces populations, et ben finalement livre ces populations à des décisions qui finalement met en péril toute la question de la lutte contre le sans-abrisme. Et ça pose un problème parce que moi je suis assez favorable à ce que on prenne la question à bras le corps et qu'on permette à des gens d'aller vivre un petit peu partout sur le territoire, à condition qu'il y ait un cahier des charges qui englobe à la fois l'accompagnement en démarches administratives, à la fois l'insertion et à la fois la formation professionnelle ou l'employabilité ou la mise en emploi.
Le français aussi.
Donc, si le gouvernement est capable de nous dire, voilà, ce que lorsque l'on extrait quelqu'un d'un squat ou d'une situation de sans-abri, voilà ce que l'itinéraire qu'on lui propose, moi, ça me pose, comme tu dis, pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, tu es en train de dire qu'on va prendre 400 personnes dans un squat, qu'on leur demande tous de monter dans un car et qu'on leur dit même pas où ils vont et qu'on va les jeter dans des sas, c'est-à-dire des solutions pansements provisoires,
voilà.
Et qu'après on verra ce qu'on en fait. Et le problème, il est pour tout comme ça. Et le problème, c'est le problème des migrants, le problème du droit d'asile, le problème des OQTF. Tout est comme ça.
Ouais, parce que moi, j'ai écouté un témoignage. Alors, je me rappelle plus si c'est le maire de Blois ou d'Orléans, là, il y a plus d'un mois déjà.
C'est Orléans.
Qui disait, il y a plus d'un mois, depuis début février, on m'en envoie un bus de 50 par semaine. Et lui, ce qu'il disait, c'est que c'était pas forcément des migrants, c'était des.
Oui, il y a de tout.
Mais c'était pas forcément des migrants et il y avait aucune place qui était capable de les accueillir.
Évidemment.
Et le discours officiel du gouvernement, c'est un gros mensonge sur le fait, du gouvernement ou de la région ou de la mairie de Paris d'ailleurs. Je sais pas qui a un discours officiel là-dessus, mais c'est un gros mensonge sur le fait d'invoquer la répartition géographique des migrants. Parce que, pourquoi c'est pas que des migrants, et deux, les villes dans lesquelles on pose le bus, il y a pas, et les mecs, ils sont pas informés en amont. Le maire d'Orléans qui témoignait, il dit, moi, j'ai commencé par interroger la préfecture se fait imposer 50 mecs par semaine ou par mois, je sais plus. Mais sans savoir quoi en faire, quoi.
Bah, évidemment.
Et à un moment donné, dire officiellement, c'est de la répartition géographique, c'est de la foutaise.
Non, mais ce qu'aurait pu être entendable, Didier.
Je peux croire.
Oui, mais
qu'il y a de la répartition géographique à faire.
Mais ce que tu mets dedans, c'est important.
Mais à la fois, avant, il faut avoir vérifié que c'est des gens qui sont en situation d'immigration légale,
mais qui sont
éligibles à l'immigration, quoi. Il y a d'abord ça à vérifier, et après, vérifier quels sont les métiers en tension, de quoi on a besoin. Et après, moi, je peux concevoir la répartition géographique. Moi, je vis dans des campagnes qui sont en train de crever. Et du coup, remettre des gens dans les campagnes qui sont en train de mourir, refaire vivre des villages, des écoles, avec des gens qui savent faire un vrai métier, pourquoi pas?
Mais
c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Hein.
Didier, il a raison.
On les met dans des grandes villes, on l'impose au maire, on l'impose au préfet, et ils ont aucune solution pour les héberger.
Le préfet, il écoute ce que dit monsieur le ministre de l'Intérieur.
Il y a un élément qui plaide pour, effectivement, le nettoyage social, c'est quand on ferme un hôtel dans le 18e arrondissement. On sait bien qu'on a besoin de places de chambres pour les JO, et donc, effectivement, il faut vider certains hôtels.
Déjà qu'il y a des hôtels entiers qui sont
Les chiffres des hôteliers pour les JO ils se plaignent parce que le taux de remplissage pour l'instant n'est qu'à 65% et ça commence à les inquiéter sérieusement.
Le gars qui m'a amené ici en moto-taxi, il dit parce que les JO arrivent, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Tous les gens qui font des réunions, on va dire hebdomadaires ou sur Paris, ils disent ben à partir de bientôt, on va plus monter à Paris parce que avec les JO, ça va être le bordel, ça va coûter cher de s'héberger, les transports et machin. Et voilà. Et globalement, la perspective des JO est en train de créer une baisse économique sur les lieux et autour des sites.
Je vais vous donner un
autre exemple. Et là, puis je vais donner la parole. Okay. Tu vois, il y a une association qui a témoigné de campements qui avaient été démantelés, de gens qui étaient montés en début, c'est qu'ils sont ensuite partis vers Rennes, Strasbourg, Rennes Bordeaux. La moitié, en fait, ont juste 3 semaines d'hébergement. En fait, au bout des trois semaines d'hébergement, ils sortent des lieux. Alors, pour certains, ceux qui ont, si tu veux, des papiers, des formulaires qui sont en cours, ils retrouvent des conditions d'hébergement. Mais pour la moitié d'entre eux, en fait, on les a déplacés dans ces villes.
Quand derrière, ils sont dans le bus, savoir où ils en sont.
Je vais vous
raconter
une preuve que c'est du nettoyage social. Alors, vous connaissez tous à Paris, enfin tous, je pense, la rue d'Aboukir. C'est un accueil de jour pour femmes. Un accueil de jour, on n'est pas dehors. C'est un accueil, on est à l'intérieur, on boit un café, on lave son linge. Enfin bon, voyez ce que je veux dire. Eh ben, ce sera fermé pendant les JO pour faire une fin de zone. Non mais... Ça s'appelle du nettoyage social, ça, excusez-moi. Hein.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces femmes?
Ah ben, vous dégagez, vous prenez un bus, hein, comme tout le monde. Hein. Tu sais, déjà, moi, là, actuellement, j'interviens dans un hôtel à Nation qui va fermer très prochainement. Et là, je ne vais pas dire le nom de l'assaut parce que déjà, j'ai quelques soucis avec eux. Mais ils veulent plus communiquer avec moi parce que moi, j'ai dit, je vous préviens, il y a une fille dehors, vous allez m'entendre. Et là, il va fermer fin avril. Et je suis sûr qu'ils m'écoutent, là.
Non, mais en soi, c'est déjà...
C'est inadmissible.
Non, alors, c'est quand même pas un problème que des assos louent des hôtels entiers pour coller des SDF. C'est pas ça qui est un problème,
c'est
déjà,
des assos qui sont subventionnés par l'État. Hein.
Non, mais voilà. En gros, c'est nous qui payons.
Voilà, c'est nous.
Mais c'est même un business.
On va prendre deux exemples. On va écouter Léa, qui est graphiste, qui nous appelle du 18e arrondissement parisien. Bonjour, Léa.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes témoin, vous aussi, dans votre arrondissement, de ce qu'on appelle le nettoyage social à l'approche des JO ou pas?
En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que après le Covid et pendant le Covid, tous les petits hôtels, il y en a beaucoup dans mon quartier, qui sont des 1 étoile, 2 étoiles, ils ont été transformés en hôtels sociaux. Et par exemple, moi, je donne pour 2 cours. Eh bien, côté séjour, j'ai un hôtel social et côté chambre, j'ai un hôtel social. Alors celui côté chambre, ça se passe très bien, ils sont calmes et tout. Et l'autre, ils peuvent potentiellement être assez bruyants, mettre la musique à fond et tout ça. Et franchement, c'est pénible. Après, c'est des gars, ils bossent apparemment parce que j'ai contacté l'asso qui est hyper difficile à joindre, étonnamment.
Ah, ça m'étonne pas.
Et en fait, ils bossent, ils font des formations en boulangerie, tout ça. C'est pas des gens à problème, si vous voulez. Mais il y a, je suis désolée, mais un mode de vie qui est pas adapté. Et en plus, ils sont pas chaperonnés, vous voyez. On les a placés là. Et puis après, ils sont en autonomie, on dirait.
J'ai quelque chose. Léa, attendez, je vais vous laisser après. Je vais vous dire un truc. Ça, les hôtels transformés, pour accueillir pendant le Covid, là, en fait, ça s'appelle les CHU. En principe, dans ces CHU, puisque moi, j'interviens dans les CHU, logiquement, il y a des agents de sécurité, il y a accueil et il y a au moins un travailleur social. Donc,
il n'y a aucun intervenant, enfin, il n'y a aucun interlocuteur, il n'y a pas de réception. Et quand vous cherchez, c'était l'asso Interalia, elle s'appelle, quand vous cherchez un contact, vous trouvez personne.
Je vous crois.
Léa, là, puisque vous parlez de cet hôtel-là, pas loin de chez vous, c'est quel type de population qui est là, alors, du coup?
C'est des subsahariens. Apparemment, ils viennent tous du même pays parce que ils se réunissent, dès qu'il fait beau, ils se réunissent dans la cour en bas et ils parlent très fort. En fait, c'est ça le problème. Ils s'en rendent pas compte, hein. Je pense que c'est vraiment pas pour nous emmerder, mais voilà. Et du coup, ils parlent la même langue. Et en fait,
ils sont nombreux. Combien sont-ils, Léa?
Je pense qu'ils doivent être une vingtaine. Vingtaine. Ils ont chacun. Il y a des lits superposés dans les chambres. Je crois qu'ils sont un par chambre quand même. Et voilà. Après, ils vivent leur vie et tout. Mais là, en l'occurrence, moi, les petits hôtels qui ont été transformés en hôtels sociaux dans mon quartier, c'est bizarre parce qu'on est vraiment à 2 pas du Sacré-Cœur. c'est toujours des hôtels sociaux. Voilà. Après, moi, si vous voulez, je suis pas contre cette idée, hein, d'accueillir les gens correctement et tout ça.
Plutôt que de les voir dans la rue.
Mais c'est vrai qu'il y a une, voilà, exactement. C'est juste qu'il y a une accumulation, spécifiquement dans le 18e et le nord
oui,
du 9e.
Oui, le 19e aussi, c'est pareil.
Mais Léa, bien sûr que c'est pas la question d'accueillir. C'est pas ça qu'il faut remettre en cause. C'est la défaillance de l'État depuis des décennies. Qui n'insère pas, qui n'intègre pas et qui n'accompagne pas à l'intégration sociale.
Moi, je suis pas d'accord parce que eux, vous voyez, ils ont quand même des formations, ils sont pris en charge, mais ils sont pas encadrés dans la mesure où on les lâche un peu comme ça,
et on leur dit pas ça.
Par exemple, ça se fait pas de mettre la musique à dos.
C'est ça, l'intégration sociale,
Pour bien intégrer Zora, il faut organiser les choses et surtout il faut fluidifier. C'est-à-dire que là, on voit bien que rien n'est contrôlé.
Parce qu'ils travaillent pour beaucoup.
Il y a pas de maîtrise dans les arrivants. C'est-à-dire qu'on subit. Oui. Donc quand tu subis, on gère la petite semaine avec un logement social, avec un hôtel social. On les laisse dormir dans des conditions inimaginables dehors. Enfin, Paris maintenant, il y a des bidonvilles dans Paris. Enfin, il y a 30 ou 40 ans, ça n'existait pas. On avait nettoyé Paris parce que justement, on avait construit des logements, etc. Les bidonvilles existaient à Nanterre et autres. Mmh. Et dans les années 60, et on a tout construit. Maintenant, il y a de nouveau des bidonvilles. Et on nous explique que c'est formidable et que voilà, et c'est normal. Et que, écoute, on accueille les gens. Enfin. Et on est dans une ville de gauche.
Ce que dit Léa.
Qui gère cette ville donne des leçons matin, midi et soir sur l'humanité.
Ce que dit Léa, elle dit effectivement que ces gens-là sont arrivés de pays subsahariens où certainement ils ont fui soit des conditions politiques, parfois l'Érythrée, enfin, pour ne citer que l'Érythrée, évidemment, c'est des conditions extrêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que Léa, elle ne remet pas en cause le fait qu'ils soient logés, elle remet en cause le fait que. Ils sont logés, ils travaillent effectivement, ils font des formations, ils occupent des emplois, donc ça c'est très bien. Mais qu'en fait ils sont pas accompagnés dans leur vie sociale. Il y a pas une volonté d'intégration.
Ils veulent pas tous rester là.
Ça pose problème.
Léa, on va écouter un autre témoignage. Léa, je propose de rester avec nous. C'est celui de Cyril qui est à Paris, qui est directeur dans la restauration. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Vous vouliez intervenir dans notre discussion, vous aussi, sur ce que constate Elina, le nettoyage social. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Cyril? Qu'en dites-vous, alors?
Tout d'abord, j'étais très content de ce que venait de dire Olivier. C'est vrai que Paris est devenu vraiment, pour moi, un bidonville. Moi, j'habite Porte de Saint-Ouen, donc dans un quartier populaire depuis 20-25 ans. J'y suis très bien. Si j'y suis depuis 20 ans, c'est pas pour rien. Mmh. C'est que j'aime, justement, le mélange ethnique et tout ça, maintenant, c'est devenu depuis, on va dire 5 ans, une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a des tentes avec des migrants qui, pour moi, n'ont rien à faire. Des tentes sur les métros, partout. Il y a eu à un moment donné un migrant qui avait une tente et qui se grattait tout le temps et qui avait plein d'immondices autour de lui. On sentait bien qu'il était...
Ouais, mais là, il y a la maladie psychiatrique derrière, là. Ça, j'en suis sûr.
Oui, mais je veux bien le croire, mais le problème, c'est qu'on...
Mais il faut le prendre en main.
Nous, les habitants, on est en train de subir tout ça.
Pourquoi les habitants doivent subir ça, en fait?
Oui.
Et pourtant,
attendez, laissez-y dire Cyril. Allez-y, Cyril, pardon.
Le problème, c'est que nous, en tant que Parisiens, en tant qu'habitants, on passe à côté de tout ça et ça devient insupportable. C'est-à-dire que moi, j'habite dans des quartiers populaires, j'ai aucun problème avec tout ça. Maintenant, avec ça, j'ai un problème. Mais justement, je trouve que on laisse tout faire. C'est-à-dire que moi, je vois des gens avec des tentes, avec des matelas par terre, avec c'est dégueulasse de partout. Personne ne fait rien. Ou de temps en temps, il y a quelque chose, mais deux jours après, ils reviennent.
Remarquez que ces tentes, ces bidonvilles, c'est uniquement dans l'Est parisien, le Nord parisien, c'est-à-dire les quartiers entre guillemets encore populaires, mais je dis entre guillemets populaires parce qu'il n'y a plus vraiment de quartiers populaires à Paris vu le prix du logement. Mais c'est vrai que vous ne les voyez pas près des ministères, etc. Parce qu'au bout de deux minutes, ils seraient délogés. Donc il y a aussi une complaisance, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, bon, allez, on laisse ça dans le Nord de Paris, dans les quartiers plus populaires, entre guillemets, et finalement, la colline du crack.
Mais Cyril, il dit bien que la diversité, Cyril. Ça l'a jamais gêné. Ce qui le gêne, c'est la saleté.
Mais Cyril, c'est exactement ça. C'est sale, c'est sale. Vous pouvez même pas vous imaginer. Enfin, si vous imaginez,
mais
parce que
Cyril,
vous êtes
ça va
à
même...
Paris et vous le voyez très bien.
Bien sûr, mais ça va même au-delà maintenant, parce que pour tous ceux qui viennent sur Paris, qui arrivent par le sud, l'autoroute A6, ou qui arrivent par Orly. Alors là, maintenant, il y a un truc qui s'est installé, c'est-à-dire sur les côtés du périphérique. Oui. Vous avez des cabanes.
Oui, j'ai vu. Ouais.
En dur. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui, j'ai vu comme les bidonvilles qu'on avait avant nous.
Si vous arrivez vers Paris maintenant, vous arrivez par Orly, jetez un coup d'œil si vous voulez voir la famille, vous installez dans Paris.
Ça ressemble à l'entrée d'Oulan-Bator.
Sur les côtés, effectivement, du périphérique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Cyril. Vous avez des mini cabanes en dur avec des caddies, avec des tables. Et vous dites, mais. C'est incroyable. Et c'est là depuis des semaines et des mois. Allez-y, Cyril, pardon.
Et les favelas.
Et je voulais rajouter quelque chose. Je sais que c'est pas politiquement correct ce qu'on dit actuellement. Maintenant, vous le dites, c'est vraiment super parce que c'est assez rare sur les télés d'entendre ce genre de discours. Parce que c'est toujours mieux de dire oui, il faut faire attention à ces gens-là, machin, truc. Bien sûr, il faut faire attention à ces gens-là. On est tous des humains et je préférais qu'ils soient installés correctement et ainsi de suite.
Bien sûr.
Maintenant, pourquoi nous, les habitants, les gens, les Parisiens, tout simplement, pourquoi on a à subir tout ça, en fait? Je ne sais pas. C'est quoi le but? Le but, c'est que Paris soit de plus en plus sale, qu'il y ait de plus en plus de bordel partout, d'immondices.
Mais c'est la bien-pensance de la gestion, ça, monsieur.
Monsieur, je voudrais vous dire quelque chose.
En tout cas,
vous savez que vous avez tout à fait raison. Même moi, vous savez, je vois des trucs là où j'habite. C'est ignoble. Mais en tout cas, logiquement, et là je trouve pas ça normal que des maraudes ne passent pas, surtout si vous me dites que le monsieur il arrête pas de se gratter, il peut en donner des poux, des puces à tout le monde.
Oui, c'est la gale, sûrement.
Mais par contre, vous êtes en droit d'appeler la mairie et d'être en colère à la mairie de Saint-Ouen pour dire écoutez, nous on n'a pas à subir ça, faites passer la protection civile ou une maraude X.
C'est quelle mairie? Vous êtes dans quel arrondissement déjà?
Alors, c'est le côté 17e, c'est-à-dire c'est la porte de Saint-Ouen, c'est pile poil entre Saint-Ouen et je suis encore à Paris.
Mais vous êtes en droit d'appeler la mairie.
Mais du coup, toi, tu fais des maraudes. Oui. Parce que là, je voyais ton écusson Paris-Seine. Tu fais des maraudes le long de la Seine.
Des maraudes nautiques.
Avec la protection civile.
Avec la protection civile, parce qu'il faut savoir, on n'en parle jamais, mais il y a énormément de sans-abri qui travaillent, qui sont en CDI et qui vivent sous les ponts. Donc, on ne peut pas les abandonner. Et ils travaillent, il y en a qui ont des CDI, il y en a qui travaillent en intérim, il y a des petites familles, il y en a qui ont des enfants, ils emmènent les enfants à l'école le matin. Enfin, c'est une vraie vie sous les ponts. Et j'ai découvert
merci de ce témoignage. Merci à Léa et à Cyril d'avoir été avec nous. Bonne journée Léa et Cyril, merci d'avoir été dans les GG.